Radio Okapi.
Oh, 18h à Kinshasa, mesdames, messieurs, voici les titres de votre journal. Tout en saluant la déchéance du premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, la fédération de l'UDPS en Ituri appelle le chef de l'État à matérialiser maintenant ses promesses, notamment en Ituri. Pour ses partis au pouvoir, le chef de l'État doit instaurer cette vision de l'union sacrée dans les provinces en vue de soulager les calvaires de cette population meurtrie par les groupes armés. Le CEPADO se félicite de l'annonce faite par le commandement des États-Unis pour l'Afrique Africom d'appuyer les FRDC dans la traque contre les rebelles de l'ADEF dans l'est du pays. Nous suivrons dans ce journal Omar Kavota, vice-président du conseil d'administration du CEPADO. Carly Zanzoukassevita, gouverneur du Nord Kivu, appelle à une mobilisation nationale et internationale pour la situation humanitaire dans la province du Nord Kivu qu'il dirige. Il l'a dit ce samedi à Butembo à la clôture de sa mission de près de 3 semaines dans le Grand Nord. Il sera avec nous avant la fin de ce journal. Il est notre invité. Et c'est pour nous un réel plaisir de vous présenter ce journal. Pierrot Elamegi devant ce micro et Alain Goy est à la mise en onde. Bienvenue à toutes et à tous. La Fédération de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en Ituri salue la déchéance du premier ministre Sylvestre Ilunga. Dans une déclaration à la presse, cette formation politique loue la volonté du chef de l'État de pouvoir mettre fin à ses gouvernements qui, disent-il, a démontré ses limites. Par ailleurs, ce parti politique au pouvoir appelle le chef de l'État à matérialiser maintenant ses promesses, notamment en Ituri. Le chargé des justices et droits humains de la Fédération de l'UDPS en Ituri estime qu'au regard de la situation sécuritaire actuelle dans l'Ituri, le chef de l'État doit instaurer cette vision de l'union sacrée dans les provinces en vue de soulager les calvaires de cette population meurtrie par les groupes armés. Maître Lucien Luteni est au micro d'Ezekiel Mouzalia.
Nous osons croire qu'avec le nouveau gouvernement qui viendra au niveau provincial, il va aussi travailler conformément à la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de problèmes. Nous avons les problèmes de détournement. Nous avons les problèmes d'insécurité. Nous avons plusieurs questions dans plusieurs axes. Et nous, IDPS, nous osons croire que cette fois-ci, avec le nouveau gouvernement qui sera instauré là de l'Union sacrée, et les choses vont aller normalement. Nous aussi, IDPS Ituri, il faut que l'un de nous qui est un fils, un digne fils de l'Ituri, puisse se retrouver dans ce gouvernement pour accompagner le chef de l'État, pour lui dire la vérité par rapport à tout ce qui se passe en Ituri. Parce que nous, IDPS, nous avons compris que en Ituri, ceux qui dirigent l'Ituri cachent beaucoup de réalités de l'Ituri auprès du chef de l'État. Voilà pourquoi nous demandons au chef de l'État, à notre autorité morale, de penser aussi d'aligner les noms des dignes fils de l'IDPS qui sont en Ituri pour qu'ils relèvent aussi les défis.
L'ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC dit prendre acte de la démission du premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Il espère qu'un nouveau gouvernement sera rapidement formé afin d'entreprendre différentes réformes dont le pays a besoin actuellement. Actuellement, ce jour à Kisangani, Joe Indekeu l'a déclaré ce samedi à la presse en marge de la visite qu'il a effectuée au chantier naval de l'Office des routes. On l'écoute au micro de Jacques Mokonkole.
Mais c'est-à-dire, c'est une situation, vous dire, spécifique qui est intervenue actuellement. Vous dire, à Kinshasa, vous dire, ben, j'ai eu des entretiens avec quasi tous les acteurs de ce qui s'est passé. Vous dire, nous prenons évidemment acte, vous dire, de la démission, vous dire, du Premier ministre suite vers la motion de défiance qui lui a été adressée. Et on espère que, vous dire, avec, vous dire, la dynamique actuelle qui s'est mise en place, ça veut dire après les consultations, vous dire, par le président, vous dire chef de l'État, que vous dire on puisse maintenant arriver, vous dire à la formation rapide d'un gouvernement, vous dire qui puisse, vous dire prendre le taureau par les cornes et vous dire travailler aux réformes, vous dire dans ce pays il y a tellement besoin.
Le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, CEPADO, se félicite de l'annonce faite par le commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, pour son appui au FRDC dans la traque contre les rebelles de l'ADEF dans l'est du pays. Pour Omar Kavota, vice-président du conseil d'administration du CEPADO, ne pas croire en l'existence des ADEF à Beni équivaut à être leur complice. Il a dit au micro de Sekombi Katondolo.
Lorsque les États-Unis s'engagent à travers l'Africom de soutenir le FRDC pour lutter efficacement contre l'État islamique dans l'Est, c'est cela même l'expression de la solidarité internationale que nous avons toujours recommandée aux États amis de la RDC et aux grandes puissances dont l'expertise est avérée dans la lutte contre le terrorisme. Ce n'est plus un secret, nous l'avons toujours dit, le terrorisme auquel nous sommes confrontés à Beni est une réalité. Et seule notre armée ou seul notre pays ne peut y faire face. Il faut une synergie d'efforts, il faut une synergie, une mutualisation d'efforts des États pour arriver à endiguer cette menace. C'est qu'il faut tout pour dire le contraire. Pour dire qu'il n'y a ni ADF, ni l'État islamique à Beni, ce sont soit des complices des ADF ou simplement des personnes de mauvaise foi, des mal intentionnés.
La ville de Kalemie vient très tôt matin de ce samedi d'être réveillée par la manifestation des transporteurs à moto. Motif, un motard tué la nuit de vendredi par balle et l'engin emporté par des inconnus. La situation a contraint la police de sortir sur l'artère principale de la ville pour contenir les manifestants. Des blessés sont signalés. François-Xavier Mibé.
Les manifestants se soulèvent contre les autorités en place afin de mettre un terme à l'assassinat des motocyclistes. Les transporteurs à moto sont ainsi sortis dans les rues pour exprimer leur mécontentement. Ils ont fait recours aux jets de pierre contre les éléments de la police qu'ils ont trouvés déployés sur l'artère principale Lumumba lors de leur passage. C'est le quatrième cas d'attaque aux motocyclistes, dont deux morts que la ville de Kalemie observe en l'espace d'un mois et demi. Le président urbain des motocyclistes, Freddy Aboubakar Mouemedi, appelle les autorités à prendre leurs responsabilités.
La vie est sacrée, on ne peut pas commencer à nous tuer à tout temps. Nous ne sommes pas des rebelles, nous sommes les citoyens civils respectés, nous faisons notre boulot.
Débordé, la police a fait recours aux lacrymogènes pour disperser les manifestants. Les éléments de l'armée ne sont pas restés en laisse. La présence de la Jeep de FRDC avec des hommes armés jusqu'aux dents aux endroits chauds de la ville a persuadé les manifestants parvenus à baisser leur tension. Le commandant provincial de la police, le général Jean-Yves Moukaya.
Nous sommes toujours en train de conscientiser notre population pour qu'il soit souple de nous donner des informations. La collaboration entre la population et la police.
La manifestation a fait quelques blessés, dont un policier. De la place Kisebwe, François-Xavier Mibé, Radio Kapi.
Dans le territoire de Rutshuru, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Les tronçons routiers Kiwanja, Nyamilima, Ishasha dans le groupement Binza est dans un état de délabrement très avancé. La société civile à Nyamilima, qui alerte sur la situation, demande au gouvernement provincial de réhabiliter ces tronçons long d'une 60aine de kilomètres à partir de Kiwanja. Ces tronçons est d'une importance capitale car il relie le poste frontalier d'Ishasha à l'Ouganda. Bernardine Diambou nous en dit plus.
La société civile locale s'est dit préoccupée par l'impraticabilité du tronçon qui, de plus en plus, est en état de délabrement très avancé. C'est notamment à partir de Kinyandoni, Kiseguru, Kisharo, jusqu'à Nyamilima où la route devient impraticable. Les usagers routiers éprouvent d'énormes difficultés pour atteindre Ishasha à la frontière congolo-ougandaise. Des accidents sont de plus en plus enregistrés, témoigne notre source. Elle précise que ce tronçon routier a été attribué à un opérateur économique de Goma comme attributaire pour l'entretenir. Vu son état de délabrement très avancé, cette structure citoyenne demande l'implication du gouvernement provincial du Nord Kivu afin de prendre des mesures idoines pouvant permettre à l'attributaire de mettre des moyens afin de réhabiliter cette route ou soit de l'attribuer carrément à une entreprise qui a des engins appropriés pour sa réhabilitation car elle s'avère d'une importance capitale. Goma Sifamagoro, Radio Kapi.
Restons au Nord Kivu où deux localités de la chefferie de Watalinga dans les territoires de Beni ont bénéficié hier vendredi d'un projet d'éclairage public sur le grand artère. Cette première phase du projet de réduction des violences communautaires de la MONUSCO a doté la localité Manudioma située au point kilométrique 25 de sur l'axe Mba au Kamango des 10 lampadaires solaires et celle de Kamango, chef-lieu de cette chefferie des 20 autres de ces lampadaire. David Mouazé, président de la société civile de Watalinga, revient ici sur l'impact de ces projets dans la communauté. Il est au microphone de Sakombi Katondolo.
Nous adressons nos remerciements à nos partenaires, surtout notre partenaire privilégié, la MONUSCO, et qui a répondu à un besoin qui a été prioritaire dans l'agglomération de Kamango, parce que en voyant la situation sécuritaire que nous avons toujours traversée, et l'élimination de Kamango serait une piste de répondre au moins tant soit peu à ces besoins-là, parce que quand l'éclairage est là, l'ennemi aussi peut avoir peur même d'accéder directement dans les différents quartiers de l'agglomération de Kamango. Et la sécurité aussi soit quand même restaurée dans l'agglomération de Kamango, étant donné que nous assistons aujourd'hui à un retour spontané et progressif de la population qui était en déplacement au niveau de Nobili.
Notez que le coût total de ces projets est évalué à 49 500 $ américains. Plus de 13 albinos sont morts des cancers de la peau en l'espace de 6 mois dans la ville de Lubumbashi. Nous sommes dans le Haut-Katanga. Le président de l'Observatoire pour le bien-être des albinos du Congo, OBEAC, tire la sonnette d'alarme et interpelle les autorités. Car à l'allure où vont les choses, renseigne-t-il, beaucoup d'autres risquent de perdre leur vie à cause de leur non-prise en charge efficace. Simon-Pierre Kalinga indique que leur situation ne cesse de se détériorer. On écoute Simon-Pierre Kalinga au micro de Jean Andou.
La situation des albinos dans la province du Haut-Katanga continue toujours à se détériorer. Nous signalons qu'au cours des 6 derniers mois, nous avions enregistré plus de 13 cas de décès chez les albinos. Mais au-delà de ça, il y a la protection qui n'est pas du tout très observée au milieu des albinos. Donc il y a un problème plus de sensibilisation. Mais ce qui est aussi plus important, c'est la prise en charge des albinos que nous manquons jusque-là, parce que il n'y a pas un regard très particulier. Et voilà pourquoi les albinos décèdent jour et nuit avec le cancer des peaux. Pourtant, c'est une maladie qu'on peut toutefois revoir avec les mesures préventives. Mais comme il n'y a pas de prise en charge efficacement, c'est ce qui fait que les albinos décèdent du jour au lendemain. Sinon, on risque de perdre tous les albinos par le fait que le nombre continue à augmenter du jour au lendemain de cancer des peaux chez les albinos.
Et parlons encore santé, cette fois avec la situation de la lèpre dans la province de la Tchopo, qui est une des provinces les plus endémiques de la RDC, à côté de celles du Bas-Uélé, Haut-Uélé, l'Équateur et les Tanganyika. Et dans la Tchopo, bien sûr, au moins 281 cas ont été rapportés en 2020. Jacques Moukonkolé pour les détails.
Toutes les 23 zones de santé de la Division provinciale de la santé ont notifié des cas de lèpre, déclare le superviseur provincial à la coordination provinciale lèpre et tuberculose, Oscar Okechi.
Parmi ces cas-là, il y a eu 28 enfants, soit 10%. Nous avons eu 38 malades qui sont venus avec des infirmités, des plaies, des doigts coupés, des orteils coupés. Et ils représentent environ 10%. Les femmes, nous avons eu sur 281 cas, 131 de sexe féminin. Et ce qui représente environ 46,6%.
Les zones de santé de Bafouassende, Wanyarukula, Ubundu, Banalia, Isangi et Yaïsouli ont rapporté beaucoup de cas. D'autres n'ont pas pu le faire en raison de diverses difficultés. Oscar Okechi.
La première, c'est d'abord, il est d'ordre financier. Est-ce que vous connaissez les activités de masse demandent un peu de moyens? Il y a aussi le problème de mobilité des acteurs. La lèpre se vit dans des coins un peu reculés. Il y a des populations qui habitent très loin, qui n'ont pas d'accès facile dans les centres de santé.
Afin de combattre efficacement cette maladie, le superviseur Oscar Okechi exhorte les partenaires, les autorités, les infirmiers et la communauté à s'engager en mettant en jeu des moyens nécessaires. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le mouvement contre les inégalités raciales Black Lives Matter, qui a été ravivé l'an dernier après la mort de l'Américain noir George Floyd, a été proposé pour les prix Nobel de la paix par un parlementaire norvégien. Fondé en 2013 aux États-Unis, le mouvement est devenu l'un des plus puissants mouvements mondiaux de lutte contre l'injustice raciale, a déclaré samedi à l'AFP Peter Hyde, député de la gauche socialiste. Le Nobel sera attribué début octobre. L'an dernier, il avait couronné le programme alimentaire mondial.
L'invité.
Le gouverneur du Nord Kivu appelle à une mobilisation nationale et internationale pour la situation humanitaire dans sa province. Karline Zanzoukas-Vital l'a dit ce samedi à Butembo, à la clôture de sa mission de près de 3 semaines dans le Grand Nord. Sur le plan sécuritaire, il appelle à la contribution de toute la communauté pour espérer le retour de la paix dans la région, tout en appelant les groupes armés à adhérer au processus de paix. Karline Zanzoukas-Vital rappelle que le processus actuel ne permettra plus d'intégrer les miliciens dans l'armée sans répondre à des critères. On écoute dans cet entretien avec Sadiki Aboubakar.
Kerli Nzanzoukas-Vita, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de clôturer votre mission d'itinérance dans le Grand Nord Kivu. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette mission?
Nous sommes venus d'abord pour la question de la sécurité, mais aussi la question humanitaire. Mais aussi comme gouverneur de province, nous avons pu profiter de notre mission pour parler avec les différentes couches sociales de cette partie de la province. Nous avons eu à échanger sur des questions de développement, mais aussi les perspective à terme de la contribution de la population dans le cadre du renforcement de l'autorité de l'État.
Dans tous vos échanges avec notamment les leaders communautaires et toutes les représentations des couches sociales, vous aviez vraiment mis de l'accent sur la sécurité communautaire. Pourquoi ?
Évidemment, nous avions l'impression que dans cette partie de la République, les gens considéraient la sécurité comme le seul apanage des forces armées de la République et de la police. C'est pourquoi nous avions parlé de la sécurisation communautaire où nous voudrions voir la communauté s'impliquer aux côtés des FARDC dans le cadre du renforcement du renseignement, mais aussi de la collaboration avec les services publics. C'est le contraire de ceux qui pensent qu'il faut aller dans l'autodéfense. C'est la raison pour laquelle nous avions insisté sur la nécessité de voir les groupes armés désarmer volontairement, remettre les armes et ainsi permettre que nos villages soient vivables et tranquilles.
Parlant de groupes armés, il y a une dizaine qui avaient déjà adhéré au processus de paix dans le Grand Nord Kivu particulièrement, mais le processus de démobilisation tarde toujours à commencer. Ce qui décourage même certains groupes et ils retournent dans la brousse.
Évidemment, nous sommes dans le processus de sensibilisation. Nous avions d'ailleurs réussi, pas seulement ici, mais à Goma, à Rutshuru, de jeunes volontaires qui se sont désolidarisés des groupes armés. C'est d'abord cette conviction-là que nous cherchons. Il faut d'abord que les gens consentent qu'ils soient prêts à aider la République, qu'ils soient prêts à permettre qu'il y ait la paix. Et ce processus est en train d'être consolidé au niveau national pour qu'ensemble, nous puissions non seulement procéder au DDR, mais aussi à la réinsertion communautaire. Parce qu'en fait, il est évident qu'aujourd'hui, personne ne peut soutenir l'hypothèse de voir les groupes armés être mixés dans les forces armées de la République. Et c'est ce processus-là que nous sommes en train d'attendre au niveau du gouvernement central pour que ça soit consolidé.
Moi, central qui avait promis du fond, le chef de l'État lui-même.
Si, il y a tout un processus, il y a même des textes qui sont en train d'être préparés pour être signés, pour que l'ancrage soit efficace et ainsi répondre aux défis de la sécurisation du territoire.
Sur le plan humanitaire, il y a des milliers de déplacés venus du territoire de Beni, même du territoire de Walikale, dans le sud de Lubero. Quand vous étiez à Beni, vous aviez fait des gestes humanitaires à ces derniers, mais Butembo, apparemment, est oublié de la liste.
Non, en fait, nous l'avions dit même à Beni que nous ne pouvons pas trouver toutes les solutions aux questions humanitaires au regard de l'ampleur du drame humanitaire qu'il y a dans la province Nord-Kivu. S'il faut considérer les statistiques que nous avons du côté Masisi, du côté sud de Lubero et du côté Beni et Butembo, à un moment donné, il faut dire la vérité, il nous faut une mobilisation aussi nationale, aussi internationale. Il y a plus de gens qui sont dans la nécessité d'être assisté. Ce que nous avions fait à Beni, c'était par rapport aux plus nécessités. On a regardé ceux qui dormaient à même le sol, dans des écoles, dans des églises. Mais cela n'est pas nécessairement dit que ces gens n'ont pas de besoin. Ils vivent des conditions difficiles.
Et sur le plan économique, vous avez également sensibilisé sur le civisme fiscal.
Pour qu'un pays soit fort, pour que notre province puisse contribuer à la balance économique de la République démocratique du Congo, il faut qu'il y ait aussi des notions de civisme fiscal. Nous avons rappelé à notre population que pendant des moments difficiles, la contribution de chacun est de mise. Je vais réorganiser ce que nous appelons les campagnes fiscales. Nous allons commencer une nouvelle année fiscale. Nous attendons que toute la population de Butembo, de Beni, de Lubero, de Goma puisse payer leurs impôts fonciers, puissent payer leurs impôts sur le véhicule, puissent payer aussi des plaques d'immatriculation et qu'au finish, nous puissions maintenir la sécurité routière.
Monsieur le gouverneur, merci.
C'est à moi de vous remercier.
Vous pouvez retrouver ce journal sur www.radiocapille.net. Merci à Alain Goy qui l'a mise en onde. Richard Junior Kamunga l'a coordonné sous la supervision de Julien Amouini. Je vous retrouve tout à l'heure à 19h, heure de Kinshasa, pour un bulletin d'information.